Délivrez-vous. Une émission littéraire présentée par Claudine Buga pour ceux qui aiment lire et ceux qui n'ont pas le temps.
C'est de zèle.
Bonjour à toutes et tous. Dans ces moments, ces instants un peu troubles, ces vies un petit peu bousculées, eh bien, quoi de mieux qu'un bon livre? Quoi de mieux qu'un bon polar? Voilà. Alors, celui que je vous propose aujourd'hui, c'est un auteur que j'apprécie, que je vous ai fait découvrir il y a, je crois, 2 ans. Alors là, nous allons aller dans l'ombre du loup. C'est un polar, je dirais, à la Chabrol. Moi, j'ai vu du Maigret, j'ai vu tous ces flics un petit peu sortant de l'ordinaire. Et puis, vous savez, j'imagine une télé en noir et blanche avec ses angoisses, ses rues un petit peu pas très allumées. Bref, vous êtes au coin du feu avec le chat qui est pas très loin et le plaid sur les genoux. Il neige dehors. Pourquoi pas, puisque voilà, il neige un petit peu. En tout cas, ce polar est réussi, il est tonitruant. L'auteur, bien, on va en parler, je ne sais pas où il a trouvé tout ça, mais peut-être ce livre résume-t-il d'un cauchemar. Bonjour Olivier Merle.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation pour Délivrez-vous pour ces deux ailes, pour Dans l'ombre du loup, aux éditions IXO. Alors, nous avions fait votre connaissance il y a, je crois, 2 ans. 3 ans, même 2018, le temps passe très vite, pour un bel ouvrage aussi dont nous avions parlé. Alors, Olivier Merle, vous êtes écrivain, romancier, vous êtes aussi géologue, c'est
oui.
Cela, voilà.
Oui,
et vous êtes enseignant également.
Oui.
Voilà,
également.
Plein de choses. Et le fils de Robert Merle, voilà, pour faire le point total sur votre curriculum vitae. Alors, je disais, ce thriller, rien à voir avec le précédent ouvrage. Là, c'est Dans l'ombre du loup. C'est un thriller, un polar, mais moi, j'ai envie de dire un peu un polar à l'ancienne. J'ai vu du Chabrol, mais j'ai pensé, je sais pas pourquoi, au commissaire Maigret, vous savez, avec Jean Richard, la pipe au coin du bec. En tout cas, votre inspecteur, le commandant. Commandant Hubert Grib est quand même un personnage de haute volée. On va en parler avec des choses qui se passent terribles. Dans une ville qui n'a rien demandé, ça se passe à Rennes. Bref, je disais, ce polar, est-ce que ça fait suite à un cauchemar, Olivier Merle?
Non, ça fait pas suite à un cauchemar. Dieu merci, parce que je m'en serais peut-être parmi. Non. C'est, en fait, j'avais envie depuis longtemps d'écrire un polar.
Oui.
J'ai hésité de longues années, c'est mon 10e roman, donc
oui.
J'ai mis le temps avant de me lancer dedans.
Mm-hmm.
J'avais cette envie et puis voilà, je l'ai mise à exécution, sachant que finalement mon type d'écriture où il y a des dialogues, des personnages,
oui.
De l'intrigue, du suspense, des rebondissements, pouvait très bien être transposé dans un roman policier. Là où j'hésitais, c'était un petit peu l'histoire, la trame.
Mm-hmm.
Il fallait inventer quelque chose qui tienne la route.
Ah oui, ça tient la route et ça tient la route et ça nous fait dresser les cheveux sur la tête. Ça, je vous le confirme. Alors, plein de personnages. Donc, on disait Hubert Grimm. Il y a aussi Monsieur Kerdegat, à qui il va arriver un certain nombre de choses. Alors, c'est toujours difficile de parler d'un thriller et d'un polar parce qu'il faut pas en dire trop. Il faut donner en même temps envie à nos auditrices et auditeurs de le lire sans trop révéler les choses pour justement, à la fin de l'émission, ils se précipitent dans la bonne librairie de leur quartier pour acheter le livre. Voilà.
Oui,
donc, on va essayer
sûr,
de passer.
C'est un exercice difficile.
Un exercice difficile. Mais je connais votre talent de conteur et de narrateur et je suis sûre que nous allons y arriver à nous deux. Vous allez m'y aider. Alors, il se passe des choses bizarres parce que certains reçoivent des lettres anonymes, des coups de fil anonymes, jusqu'à ce que malheureusement on retrouve un cadavre, mais un cadavre sans tête. Et alors là, c'est le début de la fin, dirais-je.
Oui, alors notre commandant Grimm, il vient d'être muté en
oui.
fait de Montpellier à Rennes.
Oui.
Il est dans une forme personnelle, disons.
Il a quelques soucis personnels.
Quelques soucis personnels,
voilà.
Sentimentaux, et,
oui.
et puis aussi il est un peu dépressif
oui. Oui.
vis-à-vis de ce qui se passe tout autour de lui.
Oui.
Et donc il arrive à Rennes, il connaît personne, il a fait connaissance de sa petite équipe, ils sont 3, hein. Il y a 2 hommes et une femme.
Oui.
Et il déprime un peu, il faut bien le dire, et le commandant. Babu, le commissaire divisionnaire
Babu, oui.
voilà, lui confie une histoire, ma foi, pas très exaltante.
Oui, pas très intéressante au départ.
Pas très intéressante au départ, oui. C'est-à-dire qu'il y a un notable de la ville, M. Kerdegat, comme vous l'avez dit, qui a reçu une lettre anonyme, qui auparavant recevait des coups de téléphone toujours à minuit 11, oui. Et qui, ulcéré, est venu donc à la police judiciaire pour qu'on retrouve l'auteur de ces lettres. Alors, bon, Grimm n'est pas très emballé, bon, c'est pas tellement... Il souhaiterait une histoire un petit peu plus, corsée.
Corsée, oui.
Et, mais voilà, comme vous l'avez dit, finalement, assez rapidement, ça tourne au tragique, avec la découverte d'un corps dans un sac poubelle chez ce monsieur Kerdegat. Et sa famille, puisqu'il est marié.
Oui.
Et voilà, alors le corps est découpé en morceaux, il n'y a pas la tête. Et là, bon, on sent que finalement, cette lettre anonyme et ses coups de téléphone, c'était peut-être beaucoup plus important que ce qu'on pouvait penser au départ.
Du coup, l'enquête va devenir un peu plus intéressante, avec de nombreux rebondissements.
Voilà.
Alors, pourquoi Rennes ?
Ah, pourquoi Rennes ? Oh, ça c'est simple, c'est parce que c'est la ville où je suis né.
Oui.
Et où j'ai vécu longtemps, donc je la connais très bien.
Ouais.
Là, je n'y habite plus, mais depuis maintenant 25 ans, mais j'y ai vécu quand même très très longtemps, donc c'est ma ville natale et je suis toujours très attaché. Voilà. Et puis comme je la connais bien, c'est bien aussi de situer un roman dans un univers géographique que vous connaissez bien.
Bien sûr, c'est pratique, c'est certain, c'est certain. Alors, on vous l'a sans doute déjà dit, mais alors, moi j'ai eu l'impression aussi au travers de ces personnages, de quelque chose certainement que nos auditrices et auditeurs connaissent, un certain charme discret de la bourgeoisie avec tous ses qualités et ses grands défauts.
Derrière ces notables bourgeois, finalement, il se passe des choses qui ne sont pas très nettes.
Non.
Et en plus, ce personnage Kerdegat est un personnage très arrogant.
Oui, pas très sympathique. Pas très sympathique.
Pas très sympathique.
Non.
Pas très sympathique. Et qui énerve beaucoup dès le départ le commandant Grimm. et qui va essayer de chercher qu'est-ce qui se passe, effectivement, derrière cette très belle demeure. Monsieur Kerdegat et son épouse
résident dans une très belle maison. Demeure cossue, oui.
Et donc, voilà, il va chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe et quelles sont les ramifications complexes de cette affaire. Surtout à partir du moment où on découvre un cadavre, évidemment, ça le sort un petit peu d'ailleurs de sa dépression, parce que ça lui permet
d'oublier un peu
quelque chose. Voilà, exactement, d'oublier ses problèmes.
Oui.
Qui ressurgissent régulièrement d'ailleurs au long du roman, mais voilà, il se lance à corps perdu dans cette affaire et il a beaucoup de difficultés à comprendre ce qui se passe et avec son petit groupe, il va avoir aussi beaucoup de difficultés parce que finalement c'est complexe, il y a beaucoup de personnages en jeu qui deviennent suspects et il faut démêler une intrigue qui n'est pas facile à démêler même pour un commandant de police.
Oui. Je me suis demandé tout au long du livre, alors parfois j'avais envie de sourire, je ne suis peut-être pas la seule parce que la façon dont les personnages sont décrits, l'histoire, l'enchevêtrement des événements, c'est un pur joyau dans l'écriture, dans les mots, dans la façon de décrire les événements, les personnages, mais des fois je me suis dit, mais il s'est amusé, Olivier Merle, en traçant, en dessinant presque à la plume sergent-major, à l'encre noire et blanche, ces personnages et ces événements. Vous vous êtes amusé avec ce livre ?
Ah, énormément. Énormément.
Ça se sent.
Ça a été une de mes découvertes. C'est que, donc j'avais, comme je vous l'ai dit, beaucoup hésité à écrire un roman policier.
Oui.
Et j'y ai pris un plaisir énorme. Et je crois que c'est même le roman que j'ai pris le plus de plaisir à écrire.
Ah oui ?
C'était très réjouissant. Alors c'est assez curieux parce qu'effectivement, il y a des meurtres.
Ah oui, quand même.
Il y a des choses atroces qui se passent. Mais en réalité, il faut toujours prendre ça au second degré.
Bien sûr.
Les lecteurs prennent ça au second degré.
Bien sûr.
C'est très agréable à écrire aussi de se pencher sur une personne qui a donc ses problèmes et puis qui réfléchit donc à cette histoire, qui essaye de la comprendre et puis l'interaction avec ses équipiers.
Oui.
Tout ça est très réjouissant et très agréable à écrire.
J'ai trouvé qu'il y avait un côté, alors attention, c'est pas une critique, c'est plutôt pour moi une qualité. J'ai trouvé qu'il y avait un côté burlesque, c'est ce commandant Hubert Grimm.
Oui, il est, oui, quand on le regarde, parce qu'il est bourré de contradictions,
qui
lui donne cet aspect-là. Il est donc, alors on va pas divulgâcher,
non,
comme on dit maintenant, c'est un terme un peu bizarre, mais voilà, il est atteint d'éco-anxiété, c'est-à-dire qu'il est très travaillé par la destruction progressive de la planète.
Oui.
Il est très très inquiet, ça le torture, mais en même temps il est très contradictoire parce que régulièrement ressort en fait chez lui un personnage plus classique où la planète finalement.
Voilà. Elle était là avant moi, elle sera là après moi, voilà.
Un petit peu, voilà. mais il est quand même sincèrement déprimé par ce qui se passe, c'est certain.
Oui. Alors, c'est curieux parce que justement, il y a un antagonisme chez cet homme-là, donc il s'inquiète pour la planète, donc on se dit, on est bien dans notre siècle. Et puis finalement, en le regardant se mouvoir, bouger, vivre, on a l'impression aussi que ça peut être un personnage d'une autre époque.
Aussi, oui. Ça fait partie de ces contradictions. C'est vrai qu'il regrette le monde aussi dans lequel on est, où quand il est dans le tram, il voit les gens tous penchés sur leur portable, plus personne ne regarde personne. Voilà, il regrette en fait des interactions sociales qu'il y avait avant et qui disparaissent progressivement, qui semblent disparaître progressivement, et tous ces gens qui sont connectés avec d'autres, mais qui finalement ne voient plus ce qui les entoure, ça le perturbe beaucoup.
Voilà. Oui.
Il a des petits côtés aussi à l'ancienne. Ouais.
Je suppose que vous aimez le style Chabrol, ce coup de crayon, ce coup d'arsenic au vitriol quand Chabrol dépeint ses personnages, ses héros.
Bien sûr, bien sûr. J'aime beaucoup les films de Chabrol, j'ai tous regardé.
Oui.
Et c'est sûr que Chabrol, s'intéresse effectivement à la bourgeoisie et à tout ce qui se passe derrière.
Ouais.
C'est toujours c'est parce que c'est un milieu dont on a l'impression, parce qu'il y a un vernis devant, on a l'impression qu'il ne se passe pas ce qui se passe dans les autres
bien
milieux
sûr.
Et puis quand on creuse
c'est
parfois pire, parfois.
Vous avez eu besoin, je suppose, de faire des recherches pour dans la cohérence, dans la trame, dans le côté on dirait recherche investigation pénale, vous avez travaillé, je suppose, tout.
Alors,
cela.
Oui, parce que je manquais de base. Comme c'était mon premier roman policier, voilà, je voulais pas dire de bêtises, donc effectivement, j'ai fait quelques recherches pour savoir comment fonctionnait la police judiciaire, des renseignements juridiques, techniques, voilà, ça m'a demandé un petit travail, mais pas considérable en réalité. C'est plus facile à faire que j'ai écrit des romans historiques, donc là il y avait vraiment une véritable recherche de type universitaire avant de commencer le roman. Là c'est quand même plus simple et ça va plus vite. J'espère ne pas avoir écrit des bêtises d'ailleurs sur le fonctionnement de la police, mais je pense pas. J'ai lu aussi beaucoup de romans policiers, je sais à peu près comment ça se passe.
Je suppose que vos confrères qui travaillent dans la même maison qu'édition de vous, Bernard Minier et Nicolas Beuglé, peuvent aussi contribuer. Voilà, maintenant.
Bien sûr, bien sûr.
C'est un club maintenant chez
IXO. C'est un club maintenant qui commence à se former.
C'est ça.
c'est ça, oui.
C'est très drôle et c'est très riche aussi de tous les auteurs que vous êtes. C'est très bien. Eh bien, ce qui va être très bien, nous allons faire une petite pause musicale et nous nous retrouverons tout de suite après avec Olivier Merle.
Nous nous retrouvons sur l'émission Délivrez-vous pour ces deux ailes avec Olivier Merle pour son nouveau roman Dans l'ombre du loup aux éditions Ixo. Alors, je trouve que cet Hubert Grimm a également, on le disait, à plusieurs facettes. Et j'ai pas pu m'empêcher également, parce qu'il pose des questions, il s'interroge quand même sur beaucoup de choses. J'ai pensé, moi, un peu à Columbo aussi.
Ah, ça, j'y avais pas pensé. C'est vrai que...
Par moment, dans sa façon de décortiquer les choses, j'ai pensé à Columbo.
Oui, donc effectivement, dans cette manière d'aller fouiner un petit peu partout en recherchant le moindre indice, les moindres choses, oui, il y a un petit peu d'inspecteur Columbo. Ça, je dois dire que je n'y avais pas pensé, c'est vrai.
Oui, je me suis dit, mais en lisant, je me suis dit, mais il fouine partout. Hein, mais vous savez, le Columbo qui revient, mais dites-moi, je voulais vous poser encore une dernière question, et ça m'y a fait penser.
Exactement, oui, c'est vrai. Mais...
Voilà. Alors, dans cette étrange affaire, hein, parce que... je dirais que c'est pas un polar ordinaire. Bien sûr, il y a les meurtres, il y a les intrigues, il y a le rebondissement, mais il y a autre chose derrière tout ça. Je trouve que il y a aussi chez vous l'analyse, on le disait, d'un certain milieu, de cette bourgeoisie, mais également plus poussé que ça, le côté décortiqué l'âme humaine.
Oui, j'aime bien, c'est le côté un petit peu psychologique que j'aime bien détailler.
Oui.
En fait, quand je crée un personnage, j'essaye de lui donner une certaine épaisseur psychologique. Et donc, les personnages, effectivement, ont des tendances, des caractéristiques que je creuse un petit peu pour essayer qu'ils soient crédibles et en même temps qu'ils représentent quelque chose dans notre société. De le faire.
Oui. Alors, vous disiez, vous êtes né à Rennes, vous connaissez bien la ville. Néanmoins, est-ce que pour écrire le livre, vous êtes baladé, vous savez, je vous imagine avec un calepin sous le bras, le crayon, et puis dire, bon, à tel endroit, je ferai ça, là, il va y avoir cette scène-là. Comment ça s'est passé?
Alors, ça s'est passé, en fait, que je connais bien les lieux, donc je n'ai pas eu besoin de les
noter.
Retourner, en tout cas, à Rennes.
Oui.
Par contre, la fin se passe, enfin une partie de la fin se passe à Saint-Lunaire, qui est sur la côte.
Oui.
Et là, effectivement, ce sont des lieux que je suis allé voir pour être sûr de bien comprendre la géographie, comment c'était disposé spatialement, pour justement que l'intrigue, le suspense, l'histoire soit bien calée dans des lieux très précis.
Mm-hmm.
Et là, effectivement, alors je n'avais pas de calepin,
j'ai
suffit de regarder, voilà, m'arrive, à un moment donné, je sais que je décris une maison à Saint-Lunaire, elle existe, généralement. Voilà, est-ce que je l'ai vu. Ouais. Donc voilà, ce sont des lieux que j'ai eu besoin, pas pour Rennes, mais pour Saint-Lunaire, ce sont des lieux que j'ai eu besoin d'arpenter quand même pour bien m'imprégner des lieux. Ouais.
Alors on le disait, au début, bien sûr, on lui confie cette enquête qui, somme toute, les lettres anonymes, les appels anonymes, ça le passionne pas. Et puis arrivent vite, évidemment, les choses assez affreuses, et notamment, donc on disait, ce cadavre sans tête dans un sac poubelle. Comment est-ce que, en tant qu'auteur et là de ce polar, on arrive à ce genre d'idée? Comment ça vient comme ça, ça monte, on se dit bon allez, on va faire quelque chose de terrible dès le départ, ou alors il faut vraiment que l'on marque les esprits dès le départ pour accrocher le lecteur, et parce que ça part tout doucement, ça dure pas très longtemps. Voilà, comment ça se construit? Comment ça s'est construit dans votre esprit?
Alors ça s'est fait en deux temps et ça va assez lentement. C'est-à-dire que j'avais déjà, il y a 3 ans, commencé à réfléchir à une histoire policière.
Ouais.
J'avais une base, et je suis parti de cette base. Et puis j'ai greffé des choses dessus, et puis j'ai éliminé des choses que j'avais au départ. Donc il y a une espèce de construction qui se fait assez lentement, et qui évolue aussi au cours du roman. C'est-à-dire que le roman, en fait, il vous entraîne quand même, à un moment donné, dans une certaine logique. Enfin, moi, j'aime beaucoup les choses rationnelles. C'est-à-dire que je fais des romans où je ne fais pas de choses qui, à mon avis, ne peuvent pas se produire, hein,
qui
seraient un peu irréelles.
Oui.
Donc, je suis parfois orienté moi-même, un peu, pas contre mon gré, mais disons que je suis un petit peu poussé, à certains moments, à comprendre que ça va plutôt aller dans cette direction.
Oui.
Et donc, la, la trame policière, elle existe au départ, globalement,
oui.
Mais elle subit des modifications au fur et à mesure que on avance dans l'histoire. Et puis de temps en temps, d'un seul coup, alors ça peut être un flash qui se produit, j'ajoute un élément pourtant très important auquel je n'avais pas pensé au départ et qui va transformer ou faire pivoter l'histoire. Je m'en rappelle, bon alors je ne vais pas le dire parce que ce serait encore une fois divulgaché.
Eh oui, c'est divulgaché.
Mais il y a un élément très important vers la fin du roman qui m'est venu tout simplement.
Je vois lequel.
Oui, alors j'étais dans ma voiture et à un moment donné, je me suis dit « Ah, mais non, c'est pas ça qu'il faut faire, il faut faire autre chose. » Et ça m'est venu d'un coup, je me suis dit « Et ça va être un petit coup de théâtre à l'extrême fin en fait, du roman.
Ouais, » ouais.
Et voilà, ça peut venir alors un flash, d'un coup.
Instinctivement, tout d'un coup.
Ah oui, je me rappelle très bien où c'était.
Oui.
J'étais en voiture, je me garais dans un parking et d'un seul coup, je me suis dit « Oh !» Et je me suis dit, c'est ça qu'il faut faire.
Est-ce que ça peut être aussi comme un film qui se déroule ?
Alors, moi, je suis très visuel.
Ah oui,
donc,
d'accord.
Oui, c'est bien ce qui me semblait. Donc, de toute façon, mes romans, je les vis un peu en les écrivant.
Oui.
Et je vois les scènes. Je vois les scènes. Mmh. C'est quelque chose chez moi qui est très important. Je vois la disposition des lieux, je vois les personnages, je vois ce qui se passe.
Mmh.
Voilà, c'est extrêmement visuel.
Mmh.
Alors, je ne sais pas si mon écriture reproduit...
Complètement.
Donc, voilà. Donc, en tout cas, j'essaye de transcrire, moi, ce que je vois.
Mmh. Et... Ben, on a l'impression de voir à travers vos yeux. C'est-à-dire que... Alors... Moi, je suis comme vous, je suis assez visuelle et tous les lecteurs, quand je lis, je vois les personnages, j'imagine les scènes, mais j'essaye toujours de mettre un petit peu dans ce qu'a pu voir ou entrevoir ou penser l'auteur. Alors, c'est pas toujours évident, mais j'ai une chance par rapport aux auditrices, auditeurs et aux lecteurs, c'est que après j'ai l'auteur, donc je peux voir, me rendre compte si mon image ou la vision que j'ai eue était réelle ou pas. Voilà.
Oui, tout à fait. Je suis très visuel et donc je décris ce que je vois.
Oui, oui.
Il faut vraiment que je m'immerge dans le roman.
C'est mieux.
Oui, c'est mieux. Oui,
c'est
pas
mieux.
Extérieur, en fait.
Oui, mais c'est mieux. Est-ce que vous avez eu conscience en créant ce personnage, Hubert Grimm, que ça allait devenir, enfin moi c'est ce que je ressens, un personnage récurrent ?
Alors, pas tout de suite. Pas tout de suite, parce que comme je partais avec une certaine hésitation et même une certaine angoisse de faire quelque chose de tout à fait nouveau, pour moi, non, j'ai pas pensé à ça. Mais une fois que ça a été terminé, et surtout, on le devine, je pense, à la fin...
Oui. Pour ça que je vous pose la question.
Oui, qu'effectivement, ce personnage pourrait devenir récurrent, c'est-à-dire que on arrive à l'extrême fin, encore une fois, on ne va rien dire, mais à l'extrême, vraiment extrême fin, on se rend compte qu'il va se passer encore des choses dans la vie d'Hubert Grimm. Ça, c'est clair. Et que donc, parallèlement à d'autres histoires policières, lui, il va continuer le cours de sa vie. Et le cours de sa vie, il est loin d'être terminé.
Oui.
Voilà.
Et surtout, il n'a pas résolu tous ses problèmes. Donc, ça peut être intéressant par la suite.
Voilà. Exactement. Mm. Il a encore beaucoup de choses à régler et beaucoup de choses qui l'attendent dans sa vie personnelle. Donc voilà, effectivement, il pourrait devenir un personnage récurrent. Mais encore une fois, ça dépend un petit peu des lecteurs. Si les lecteurs le demandent, si le personnage plaît aux lecteurs, à ce moment-là, effectivement, il y aura très certainement une suite. Parce que, en plus, j'ai pris tellement de plaisir à écrire ce roman qu'il n'y a pas de raison que je m'arrête.
Ah ben, je suis fan d'Hubert Grimm, donc vous pouvez continuer, Olivier Merle. Voilà, je suis sûre que je ne serai pas la seule. Alors, je suppose que vous écrivez toujours, que vos tiroirs, vos placards, et toujours les manuscrits commencés, terminés ou en passe de. Les prochains projets, on a une idée. Enfin, je sais que vous êtes très secret, vous n'aimez pas en parler, mais quand même, dites-nous un petit peu sur la route.
Ah, là, alors là, vous touchez à quelque chose.
Un point sensible.
Très sensible.
Je sais.
C'est qu'effectivement, je suis extrêmement secret.
Oui.
Vous savez qu'en fait, quand j'écris un roman, même ma femme ne sait pas quel roman c'est.
D'accord.
Donc, sur quoi j'écris. Mm-hmm. Parfois, elle le devine, parce qu'elle voit parfois que j'achète certains bouquins.
Oui, bien sûr.
Oh là, t'es en train de réfléchir à telle ou telle chose.
Mm-hmm.
Mais non, alors c'est comment dire, c'est une certaine peur de, si je divulgue avant le thème de ce que je suis en train de faire, que ça me bloque quelque part. fait, j'ai besoin vraiment du secret absolu dans une bulle où il n'y a que moi, finalement, pour réfléchir à ce que je fais et écrire donc un nouveau roman. Et que si cette bulle était crevée par moi-même, d'ailleurs, en divulguant ce que je suis en train de faire, eh bien, voilà, ça pourrait mettre en péril l'histoire même. Et d'ailleurs, de la même façon, je ne fais jamais relire au fur et à mesure mes romans. Je les écris d'une traite, en plusieurs mois. Quand je dis d'une traite, ça dure longtemps.
Oui, oui, j'imagine.
Mais, voilà, je ne le fais pas relire parce que j'ai peur que des critiques me bloquent, c'est-à-dire si on me dit ah ben non, il faudrait mieux.
Oui, ça bloque l'écriture, ça bloque l'écriture. Oui, je comprends. Et l'imagination. Oui.
L'imaginaire, sans doute. Donc je préfère, je préfère rester. Secret.
Eh bien, nous respecterons cela. J'attendrai donc le prochain ouvrage. Pour en revenir donc à Hubert Grimm, notre commandant, il y a aussi le commissaire divisionnaire dont nous parlions également au début de l'interview. Est-ce qu'il fallait rendre et Monsieur Kardegat qui est aussi antipathique, est-ce qu'il fallait rendre certains personnages antipathiques pour que notre Hubert Grimm soit lu plus abordable et plus sympathique?
Je crois qu'il le faut, oui. Il le faut parce que Hubert Grimm, donc avec ses problèmes, peut apparaître pour certaines des personnes qui l'entourent comme pas forcément très sympathique. Il ne parle pas de lui.
Il est quand même assez introverti.
C'est un introverti. Oui. Donc nous, on sait ce qui se passe dans sa tête, mais il ne dit pas grand-chose. Il ne va pas non plus demander à ses collègues, pourtant les plus proches, quelle est leur vie, ce qu'ils font, etc. Il est quand même aussi secret pour lui-même que pour les autres. Et donc, effectivement, il pourrait apparaître comme quelqu'un de trop renfermé. Il s'ouvre quand même.
Oui.
Il s'ouvre, heureusement. On le découvre progressivement. Oui. Il laisse tomber l'armure par moment.
Oui, par moment.
Mais,
oui.
Voilà. Mais le fait qu'il y ait des personnages vraiment parfois un peu épouvantables autour de lui, l'aide. Alors, vous parlez du commissaire Babu. Bon, lui, il est plutôt bonasse, je dirais.
C'est le brave type dont on a l'impression qu'il ne faut rien en attendre, d'ailleurs.
Non, il ne veut pas grand-chose.
Non,
non mais en fait, il est à une ou deux années de la retraite.
Et oui, donc voilà, ça lui passe au-dessus, oui.
Mais il y a le commandant Bouxière, qui est un commandant qui est aussi à l'hôtel de police avec qui il n'a pas de très bons rapports et dont le groupe n'apparaît pas de manière très sympathique. Ouais. Et d'ailleurs...
Pas pris au sérieux non plus, le groupe, pour certains personnages, n'est pas très pris au sérieux non plus.
Oui, absolument, oui. Oui, oui. Et alors, on devine qu'en fait, les trois adjoints qui l'ont rejoint sont des personnes qui avaient un petit peu de mal dans l'autre groupe. Et on comprend au fur et à mesure, quand même, ils finissent par se découvrir tous un peu les uns les autres.
Oui.
Et donc, on finit par découvrir pourquoi.
Voilà. En tout cas, je laisse à chacun découvrir ce qui se passe dans l'ombre du loup. On ne vous demandera pas vos prochains projets parce que c'est secret, donc on respectera cela. En tout cas, c'est un thriller et un polar très réussi, tonitruant, haletant, très intéressant. On n'a pas envie de le lâcher, on a envie de savoir ce qui se passe jusqu'au bout. Donc les auditrices, auditeurs nous pardonneront, c'était pas facile de parler, on a tourné autour du pot, mais justement j'espère que cela vous aura donné envie de lire ce nouveau roman d'Olivier Merle aux éditions XO dans l'ombre du loup. Je vous remercie infiniment. C'était de nouveau un vrai plaisir de vous recevoir. Sachez que vous êtes un éternel invité à ce micro. Voilà.
Je vous remercie beaucoup.
Merci Olivier Merle. Et puis je vous souhaite une belle année 2021 en espérant vous retrouver. Une date rapide pour le prochain ouvrage, 2022?
Alors, dans l'ombre du loup sort le 25 février.
25 février, oui.
Oui, c'est la date que j'ai retenue.
Oui.
Et le prochain, on verra.
On verra. D'accord. Eh bien, écoutez, avec plaisir, on vous retrouvera avec plaisir. Merci et à bientôt, Olivier Merle.
Merci, au revoir.
Au revoir.